L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue. Bon week-end sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique. L'atelier numérique, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique chaque samedi, 16h, 18h. Et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve, bien entendu. Avec autour de cette table, Constance, Aurore, Lila, Antoine. Bonjour à vous tous.
Bonjour. Bonjour.
Et puis du côté de San Francisco, depuis l'atelier US, c'est Guillaume qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
On va le retrouver dans un instant pour sa petite news. On va parler de LinkedIn avec Guillaume dans quelques minutes. Mon cher Antoine, tout à l'heure, le crash test. Un rendez-vous que tout le monde attend.
Oui, le crash test sera consacré à Lumière parce que la semaine dernière...
Parce que vous voulez me faire une dédicace. Parce que je suis... Non.
Lumière, c'est quoi l'histoire, là?
Non, mais je me suis dit peut-être que vous considériez que j'étais une lumière.
Non,
et
vous n'êtes pas une lumière, vous êtes un phare.
Ah, voilà, c'est ça. Ça me va aussi. Voilà. Ça me va aussi, d'accord. Donc, le point de départ du crash test, c'est Lumière.
Et Lumière, parce qu'il y a eu le festival Lumière la semaine dernière.
Eh bien, voilà, où vous étiez.
Eh oui, voilà. Et donc je me suis dit, lumière.
C'est pas bête, voilà. On en parle tout à l'heure. Alors au menu de cet atelier, Silicon Carnet tout à l'heure toujours, ça sera avec Nathalie Doré tout à l'heure. On va parler aussi de Cybergadget avec Antoine, Focus Startup. On va découvrir Citigo, notre enquête de l'atelier. À l'occasion de la COP21, on va évoquer le numérique, qui peut-être agir en faveur du climat. On vous donnera quelques exemples. La cuisine connectée, ce sera notre web stratégie en s'intéressant au groupe Seb, qui pousse à fond les objets connectés dans la cuisine, ça s'intéresse. Intéressant. On verra ça. On va essayer de se déconnecter tout à l'heure avec Lila et notre invité. Je vous promets pas qu'on y arrive, mais bon, il a de bons arguments. Notre World Tour, French Tech Tour, Eric Le Broulou de la rédaction de ZeroNet.com qui sera là. Et puis le crash test, vous l'avez compris, avec Antoine et Guillaume de Groisse qui sera aussi en notre compagnie, le directeur marketing de l'atelier. Bienvenue, c'est parti pour cet atelier numérique. Et on commence par l'actu vue par toute l'équipe et on débute par Constance.
Bonjour François.
Bonjour Constance, comment ça va?
Très bien, bon. très bien.
Voilà.
Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de Google qui fait les yeux doux aux lentilles connectées. Alors il faut savoir que le 13 octobre...
C'est un joli titre déjà.
voilà, le jeu de mots sur lequel j'ai beaucoup travaillé.
Ah ouais, non, mais là, Constance, c'est beau.
Du coup en fait Google a déposé le 13 octobre dernier un brevet pour des lentilles connectées qui n'ont même pas besoin de chargeur. Elles se rechargent à la lumière, soit du soleil, soit même à la lumière artificielle. Et ces lentilles, en plus, ont des propriétés assez incroyables, car elles permettent, par exemple, à l'utilisateur de connaître sa température corporelle, ou encore son taux d'alcoolémie, ou bien la quantité d'allergènes dans l'air, et même, à terme, de faire réaliser des authentifications de paiement, ou même de connaître le prix d'un article, simplement en passant le code-barre devant ses yeux.
Et tout ça parce que, évidemment, la lentille est dans notre œil, donc elle est baignée dans les larmes, et dans ces larmes, on a toutes ces informations, en fait, c'est ça?
Voilà, on peut ensuite, grâce au contact avec l'œil et certains capteurs, connaître la température avec
D'accord.
Voilà, toutes ces choses, que ce soit dans l'air ou pour le corps. Et donc, il faut savoir qu'à l'été 2014, Google avait déjà réalisé un partenariat avec Novartis pour des lentilles intelligentes qui mesuraient le taux de glucose pour les diabétiques. Donc, c'est vrai que maintenant, après les Google Glass, là, le Google continue de plus en plus discret. Et l'utilisateur ne se rend même plus compte qu'il porte des produits Google, des capteurs.
Est-ce que cette lentille connectée, c'est pas le futur de la Google Glass, finalement,
hein? Voilà.
On verra bien. Merci, Constance. Lila Megraoua.
Oui, je vais vous parler de drones. Notamment, il y a une actu en ce moment, on est en train de s'interroger sur la régulation des drones, où il serait permis, en quel cas on pourrait leur accorder un permis. Mais je vais vous parler des drones à utilisation humanitaire. En fait, c'est tout simplement des drones qui devraient être utilisés au Rwanda pour acheminer des produits d'urgence. Donc ce projet était baptisé Redline. Et le principe, ils souhaitent tout simplement délivrer à partir de ces drones à la fois des médicaments et du matériel de première urgence. Donc à l'origine du projet, c'est un architecte britannique, Norman Foster. Et son idée, c'est de créer des aéroports spéciaux pour les drones et de créer tout un système de transport de produits médicaux. En partant du principe qu'au Rwanda, comme dans d'autres contrées, il existe de nombreuses routes sinueuses, certaines zones montagneuses difficiles d'accès, et qu'il serait beaucoup plus facile d'avoir recours aux drones pour acheminer des médicaments.
Surtout des médicaments, on va dire, des soins d'urgence.
Voilà. Donc, alors, apparemment, ces drones humanitaires devraient voir le jour d'ici 2016, et on devrait découvrir en 2020, les premiers drones ports au Rwanda.
Très bien, parfait. Avant de retrouver Guillaume depuis l'atelier US, Antoine.
Alors, moi, bien sûr, je ne pouvais pas résister à l'idée de vous parler du 21 octobre 2015, ce jour que nous venons de traverser et qui était le jour où Marty McFly, l'aspirant guitariste joué par Michael J. Fox dans Retour vers le futur,
nom de Zeus,
se retrouvait propulsé à partir de son jour de départ qui était le 26 octobre 1985.
Voilà.
Alors d'abord quelques
30 ans plus tard.
Alors d'abord quelques remarques en 1989, le film prévoyait quand même qu'en 2015 les voitures voleraient. Ce qui reste relativement rare. Il y a eu des tentatives,
mais c'est pas généralisé.
Ouais. Le ciel
aucun
est
aucun de nous dans ce studio voilà, non, est venu non, en voiture volante.
Voilà.
Hein
voilà, le ciel reste
c'est
quand
bien dommage,
il y a quelques drones, mais enfin en gros le ciel reste quand même moins encombré que le boulevard périphérique. Alors les aiguilleurs du ciel ont un avis différent,
mais
pour nous les gens du vulgaire c'est quand même clair. Il n'y a pas beaucoup de voitures volantes. Ils avaient aussi imaginé que les baskets Nike se lassaient toutes seules. Donc là, je crois que Nike est en train de lancer une expérience justement en clin d'œil à cette période-là. Et puis, il y avait donc les fameux skateboard volant qui était en usage en 2015 et qui sont donc en train d'être étudiés par sous le nom de hoverboard.
Là encore, on n'en voit pas beaucoup dans les rues.
Non, il y en a pas énormément.
Mais ça existe.
Oui, ça existe.
Mais ça existe. Donc voilà, le monde n'est pas exactement le monde de 2015 n'est pas exactement le monde qu'envisageait Marty McFly ou dans lequel il avait été plus exactement propulsé.
Mais
il y avait aussi évidemment dans ce film la voiture mythique, la DeLorean, cette fameuse voiture qui est aussi célèbre dans le monde de l'automobile parce que son constructeur John DeLorean avait été arrêté par le FBI pour trafic de drogue. C'est quand même le seul constructeur automobile. Bah oui, parce que comme la voiture se vendait pas du tout et qu'elle avait, il y avait eu plein de problèmes, il avait été obligé, le pauvre, de, si je puis dire, de trafiquer de la drogue pour renflouer sa marque de voiture automobile. Et puis donc c'est grâce, non pas à cet événement un peu triste, mais grâce au film Retour vers le futur, que la DeLorean est aujourd'hui une voiture célèbre qui s'est fait une deuxième jeunesse et qui est peut-être l'une des voitures les plus trendy en haut de la hype curve, ce que le pauvre évidemment John DeLorean n'avait pas imaginé. Et donc cette DeLorean culte, elle est en train, elle, d'être étudiée maintenant comme une DeLorean du futur. Et donc, il y a un professeur de l'université, ils ont mis une direction assistée, 4 roues motrices, un système GPS qui mesure sa position, des capteurs inertiels qui détectent ses mouvements, et donc, l'idée, c'est d'avoir une machine qui fait toute seule les techniques qu'utilisent les pilotes de rallye pour faire des donuts. Et donc aujourd'hui, elle arrive à faire des donuts, de façon bien entendu télécommandée, automatique.
Très bien, les donuts qui font rêver aussi Bart Simpson, mais ça c'est autre chose. C'est dans une autre galaxie.
Homer,
ouais. Ah oui, Homer, c'est vrai, c'est pas Bart. Bart il n'en mange pas, c'est Homer. Hein, des donuts. Bon, nous allons aller maintenant du côté de l'atelier US avec Guillaume Renoir. Alors Guillaume, on va parler de réseaux sociaux pro.
Tout à fait. Alors moi, je voulais parler de LinkedIn, qui innove une fois de plus. Alors vous savez que LinkedIn sert traditionnellement, donc côté employeur, à proposer plutôt des offres d'emploi sur le long terme, et côté travailleur à trouver des contrats du même type. Eh bien, LinkedIn vient de lancer un programme pilote nommé Pro Finder, et destiné à offrir des opportunités aux travailleurs indépendants. Alors, donc les employeurs peuvent poster des offres d'emploi sur la plateforme. Et les algorithmes de LinkedIn seront ensuite utilisés pour trouver donc les travailleurs freelance les plus aptes à remplir la mission en fonction des compétences qu'ils auront renseignées sur leur profil ou des recommandations d'employeurs précédents. Alors, comme c'est un programme pilote, le service est pour l'heure cantonné à la baie de San Francisco et à trois catégories d'emplois seulement. Alors, il y a la comptabilité, le graphisme et puis tout ce qui est écriture, édition. Mais si le programme pilote est un succès, ça s'étendra sans doute à d'autres domaines et d'autres zones géographiques.
Très bien, merci beaucoup Guillaume. Et on enchaîne avec Aurore Géraud maintenant. Petite news d'Aurore.
Bonjour, amis du bon goût, bonjour. Ah. Moi je vais vous parler d'un cercueil connecté.
D'un cercueil connecté.
Bah, c'est très bon.
Alors, je vous pose la question, est-ce que la quête de l'immortalité numérique mène-t-elle à tous les abus? Alors, nous avons une entreprise qui s'appelle Perfect Funerals, Choice Funerals, qui est anglaise.
J'adore.
Qui a décidé de créer donc ce cercueil connecté avec juste au-dessus du cercueil une espèce d'écran LCD avec des images de la personne et puis des lumières pour d'ambiance pour donner l'impression, enfin pour refléter, je cite, la personnalité de la personne, de la musique également. Et sur l'écran LCD, donc en plus de ça, ben quand on voudra tweeter ou Facebooker pendant un enterrement, parce qu'apparemment c'est la mode en Angleterre d'après les créateurs, et ben les messages apparaîtront sur le cercueil.
Ah oui, alors que moi je pensais que c'était le mort qui pouvait faire des tweets d'autres tombes.
Alors ça, il y a une entreprise qui s'est lancée qui s'appelle Ether9, qui a décidé de créer un réseau social s'appuyant sur l'intelligence artificielle.
Il n'y a pas grand monde.
Ça s'appuie sur l'intelligence artificielle et en fait, ils récupèrent tous les posts qui ont été faits sur les réseaux sociaux de la personne décédée et ils font semblant qu'elle existe encore.
Ah, je le vois bien dans quelques années. Alors, mon cher François, il fait frais. Alors là, non, là où je suis, il fait très très chaud.
Très très chaud. Oh mon Dieu. Bon, merci Aurore. Allez, on enchaîne avec Constance.
Alors moi, je vais vous parler d'une application dans le cadre de la COP21 pour sensibiliser au climat. Alors c'est l'ancien directeur artistique de la campagne présidentielle d'Eva Joly, Elliot Lepers, qui a décidé de mettre en pratique ses savoirs numériques et son engagement environnemental pour changer les choses. Alors l'application s'appelle 90 jours et elle propose en un trimestre de sensibiliser son utilisateur. Alors comment ça marche? C'est des petits défis qu'on va recevoir. Par exemple, moi j'ai essayé, ça peut être mettre un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres ou nettoyer son appartement avec du vinaigre blanc. Et si vous vous sentez pas d'attaque, voilà, pour relever le défi du jour, vous pouvez appuyer sur le panic button qui va vous mettre directement en ligne avec Elliot ou avec un de ses camarades et qui va du coup vous proposer un système de coaching pour vous motiver à changer les choses et voilà, sauver la planète. Avec l'application qui est disponible sur iOS et Android.
Voilà, et ça dure 90 jours.
90 jours pour devenir voilà un écolo convaincu.
Et on a combien de défis en tout alors?
On peut en faire autant qu'on veut.
Ah ouais.
Voilà.
Tiens, c'est rigolo. Merci beaucoup Constance. Antoine.
Rapido, le drone biodégradable qui a été mis au point, c'est très COP21 aussi, hein, qui a été mis au point par la section R&D de l'armée américaine. Alors, il s'appelle Icarus, parce qu'évidemment, Icar avait les ailes qui se brûlaient au soleil, donc Icar utilisait des ailes biodégradables. Mais c'était pas une bonne idée.
Non, pour lui, c'était pas bon.
Voilà, il avait un peu confondu biodégradation et obsolescence programmée. Et donc, donc ça s'appelle Icarus. Et en fait, ça sert quand même à quelque chose, figurez-vous. Parce que, par exemple, lorsque vous livrez des médicaments dans des zones de guerre ou dans des zones sinistrées, le drone, il va rester là, effectivement. Et donc, il vaut mieux qu'il soit biodégradable. Donc, ça a un sens. Alors, ça s'appuie sur deux technologies. Des panneaux au revêtement de polymère qui sont capables de passer de l'état solide à l'état de gaz après 4 heures d'exposition au soleil. Et puis, une glace biodégradable qui peut contenir des éléments électroniques. Voilà, en fait, c'est une sorte de drone vampire qui disparaît au soleil comme Dracula se perd, se cacher dans son cercueil, qui n'est pas forcément connecté lorsque le jour apparaît.
Très bien, parfait, merci beaucoup Antoine. Et on va revenir dans un instant les amis. L'atelier numérique ne fait que commencer. On va retrouver Antoine avec sa sélection de cybergadgets. Et puis Nathalie Doré nous proposera son Silicon Carnet dédié à Apple Pay. Vous savez, le système de paiement d'Apple qui devrait pas trop tarder à arriver en Europe, puisqu'il monte déjà le bout de son nez en Angleterre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. La sélection de cybergadgets d'Antoine Cyr dans quelques instants, les amis. Mais auparavant, direction l'atelier US et notre Silicon Carnet avec vous, Nathalie Doré. Et on va parler d'Apple Pay, le système de paiement d'Apple.
Oui, François. Alors, à l'heure où ça y est, le nombre de billets de banque en circulation baisse dans certains pays, c'est l'annonce qu'a fait la Suède, et où d'autres pays passent des lois, c'est le cas du Danemark, pour permettre aux commerçants de refuser du liquide, eh bien, je vous propose de faire le point sur ce sujet de la dématérialisation de l'argent. Alors, ici aux États-Unis, on fête les 1 an d'Apple Pay, le paiement par mobile proposé par Apple. Et Tim Cook avait d'ailleurs annoncé que 2015 serait l'année d'Apple Pay, pour vous dire que c'est un sujet stratégique pour eux. Alors, le pari n'était pas gagné d'avance. Hein. Au lancement, aux USA, seulement 12% des possesseurs d'iPhone disposaient d'un mobile compatible à Apple Pay. Désormais, ils sont 47%. Donc, le marché devient, un an plus tard, plus conséquent pour Apple. Alors, avoir un iPhone compatible, c'est bien, mais il faut aussi que la banque de l'utilisateur soit partenaire Apple Pay. Et bien, de ce côté-là, la firme de Cupertino vient d'annoncer que désormais, plus de 400 institutions financières sont partenaires. Certaines d'entre elles assure même la promotion de ce service, ce qui devrait aider à faire décoller l'usage. Voilà, de plus en plus de terminaux mobiles, de plus en plus de banques partenaires, le développement du paiement mobile semble donc être bien parti. Alors, après Apple, c'est Google qui se lance à nouveau dans la course au paiement mobile. Google a lancé en effet le mois dernier Android Pay, disponible à partir d'Android 4.4. Alors, même si le service supporte les principales cartes de paiement, Visa, Mastercard, Amex, Google n'a pas autant de partenaires financiers qu'Apple. En effet, Wells Fargo, Capital One ou Citi, les grosses banques ici ne sont pas encore partenaires. Côté distributeur, en revanche, Google a annoncé que son service était déjà disponible dans de grandes enseignes comme Best Buy, McDo, Macy's, Walgreens, etc. Mais alors, une fois qu'on a dit cela, il nous manque quand même le deuxième fabricant de mobiles en part de marché américaine, Apple étant le premier. Et bien le deuxième, c'est Samsung. Et bien ça y est, Samsung, c'est chose faite. Il a lancé à la fin de l'été dernier en Corée son paiement par mobile, Samsung Pay, et vient de le lancer fin septembre aux États-Unis. Alors, globalement, Samsung Pay est au même stade qu'Android. Alors, on voit ainsi les fabricants de téléphones portables investir ce sujet du paiement mobile, mais il reste encore quelques sujets à traiter pour que ça devienne un sujet plus important pour les usagers. Le premier, c'est la dématérialisation de l'argent, c'est bien, mais il faudrait aussi travailler sur la dématérialisation du reste des cartes qu'on a dans notre portefeuille, si on veut se balader que avec notre mobile et plus emmener avec nous notre portefeuille. Alors, ça veut dire qu'il faut dématérialiser permis de conduire, carte d'identité, carte de fidélité. Sur ce sujet-là, et notamment le sujet de la carte d'identité numérique, les pays n'avancent pas tous au même rythme et on peut dire que globalement, ça avance doucement, ça prend du temps. Après, il y a aussi le sujet de la sécurité. Beaucoup s'interrogent encore sur les données. Où sont-elles stockées quand un paiement par mobile est effectué? Apple a dû récemment d'ailleurs s'expliquer sur les données relatives à utilisateurs en disant qu'elles n'étaient pas stockées sur les serveurs d'Apple. Et puis, il faudra que les batteries des téléphones aient une meilleure autonomie pour apporter aux consommateurs une tranquillité d'esprit et accepter ainsi de n'utiliser que le mobile et d'oublier l'argent sonnant et trébuchant et le portefeuille en général. Voilà, donc les USA n'étaient pas les premiers à innover sur ce sujet. En France, le projet Pegasus remonte à il y a déjà 10 ans. Mais les choses ont l'air de s'accélérer. On parle souvent d'alignement des planètes. Eh bien là, c'est plutôt l'alignement des télécoms, banques, commerçants et usages clients qu'il faut avoir pour que ça marche. Alors, moi j'irai rendez-vous à Las Vegas dans une semaine pour la grande conférence sur ce sujet Money 2020 qui devrait annoncer des belles choses pour l'avenir.
Merci Nathalie. Et place maintenant donc à Antoine et sa sélection de gadgets. On va parler de vêtements connectés aujourd'hui, Antoine.
Tout à l'heure, on a parlé de cercueils connectés. Oui. Donc, je voudrais maintenant parler d'éléments vous permettant de vivre
un peu plus positif,
connecté vous permettant de vivre dans le confort quand vous êtes encore vivant, ce qui présente aussi un certain intérêt,
on est d'accord. Voilà.
Alors, par exemple, je peux vous parler de vêtements connectés pour se muscler sans effort qui sont en train d'être lancés par la start-up allemande Antilope. Ce sont des électrodes qui sont intégrées dans les vêtements et qui permettent de stimuler les principaux groupes musculaires du corps humain, les bras, les abdos, les jambes, la poitrine. Ces tenues sportives vous permettent d'accélérer votre vitesse et votre performance à l'effort. Alors évidemment,
c'est comme des trucs électriques, vous savez,
les Slender Tone, oui.
Voilà.
Mais alors là, ce sont des engins intelligents, donc le vêtement collecte des données comme la fréquence cardiaque, la durée des entraînements, l'intensité, qui vont être disponibles sur une appli. On vous propose 4 tailles différentes pour hommes et pour femmes, et puis la start-up vous promet quand même une croissance de votre masse musculaire de 10% en seulement 4 semaines d'utilisation.
Ah, pas mal quand même.
Autre avantage de ces vêtements connectés, ils réduisent les douleurs de dos suite à l'effort dans 90% des cas. Ils sont aussi lavables en machine. Les premiers produits de la gamme seront disponibles en Europe dès le début 2016. Et donc voilà, avec ça, vous aurez plus vraiment d'excuses pour ne plus vous mettre au sport.
On va être hyper costaud après.
Hyper costaud. Alors puisqu'on y est, tant qu'on y est, parlons maintenant de chaussures connectées. chaussures connectées. Vous n'avez pas des chaussures connectées, vous ?
Ah, pas encore. Mais vous savez qu'au CES de Las Vegas, l'année dernière, j'avais vu des chaussures connectées, des semelles qui étaient connectées.
Bah oui.
Et là, maintenant, qu'est-ce que vous avez ?
Les semelles intelligentes.
Voilà.
Donc là, c'est pour vraiment vous aider à bien utiliser votre pied, si je puis me permettre.
C'est-à-dire
que c'est... Oh, ça va, vous. Ces chaussures permettent, par exemple, à un jogger de repérer quelle est exactement la position de ses pieds durant la course et d'analyser aussi les mouvements de son corps afin pour lui suggérer comment il peut améliorer ses performances et réduire les risques de blessures. Les chaussures connectées sont aussi chauffantes pour garder les pieds au chaud pendant les longues balades d'hiver. Il est possible de régler d'ailleurs la température directement depuis votre smartphone. On peut aussi lutter contre les problèmes de circulation sanguine. Et puis la technologie Zortec peut aussi servir dans le cadre professionnel, puisque les chaussures connectées, les chaussures intelligentes, peuvent connaître la charge précise que transportent les employés d'une entreprise et éventuellement réduire les risques d'accidents du travail. Il est aussi possible, évidemment, grâce à des capteurs de position, de savoir si un des employés est tombé ou éventuellement s'il a fait un malaise. Voilà. Donc c'est vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'intelligence dans la chaussure.
Voilà. Et je crois que cette paire de chaussures qui sera présentée au CES de Las Vegas dans quelques semaines aura une fonction qui était dans Retour vers le futur. Ces chaussures se lasseront toutes seules et vous pourrez les lasser via l'appli de votre téléphone portable. En appuyant sur un bouton, elles se lasseront toutes seules.
Voilà, il y a plusieurs expériences d'ailleurs inspirées par Retour vers le futur, puisque là on vient de passer le 21 octobre 2015, qui était la fameuse date dans laquelle était projeté Marty McFly, cette idée des chaussures qui se lassent toutes seules, ça a quand même inspiré pas mal de monde.
Évidemment. Merci Antoine. Allez, on revient dans un instant, suite de l'atelier Focus Startup et enquête de l'atelier. On va parler de la COP21 et du numérique. Tiens, est-ce que le numérique peut améliorer en quelque sorte le climat? On en parle dans quelques instants, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Bon samedi après-midi à vous toutes et à vous tous. Et avant de retrouver notre enquête de l'atelier, on va parler du numérique. Peut-il agir en faveur du climat? Évidemment, l'occasion de la COP21 qui va bientôt arriver. On en parle dans un instant avec Lila Megrawa et nos invités. Mais auparavant, notre focus startup avec un gros plan sur une startup qui est entre Itch et Blablacar. Il s'agit de Citygo, Lila.
Oui, François. Alors, cette semaine, pour ce focus startup, on va continuer notre saga automobile. On va discuter avec le fondateur de Citygo, qui vous verrez un peu un croisé entre Itch et Blablacar. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patrick Clough. Bonjour.
Bonjour Lila.
Alors vous êtes fondateur de la start-up Citygo. Alors racontez-nous un peu en quoi consiste Citygo.
Alors Citygo, c'est la première application de covoiturage urbain pour se déplacer de banlieue à banlieue et centre-ville qui marche en temps réel à la dernière minute.
Alors concrètement, ça va marcher comment? Je me saisis de mon application, je me géolocalise. La suite?
Alors sur la géolocalisation, ça se fait tout seul puisqu'on n'utilise pas le GPS. On s'appuie sur les réseaux GSM pour éviter de consommer la batterie. Donc si vous êtes passager, vous allez faire une demande de trajet, vous allez indiquer que vous voulez aller à Boulogne par exemple. Les conducteurs autour de vous vont recevoir cette demande. S'ils sont intéressés, ils vont répondre. Vous allez vous mettre d'accord sur un prix avant de partir. À la fin du trajet, vous allez payer par l'application et vous notez mutuellement. Et si vous êtes conducteur, ça aussi on est les seuls à le proposer aujourd'hui, vous allez dire à la dernière minute, je pars dans un quart d'heure, une demi-heure pour telle banlieue. Les passagers autour de vous vont être informés de cela ou vont pouvoir voir cela sur l'application. Ils vont dire, bah super, moi aussi je peux partir dans une demi-heure avec cette personne pour aller toujours à Boulogne ou à Vincennes, par exemple, et faire un trajet à un coût qui est jusqu'à 10 fois moins cher que ce qu'on paierait en taxi ou en VTC citoyen.
Comment aujourd'hui, quel est votre business model? Vous prenez une commission sur chaque trajet?
Alors exactement, vous avez bien deviné, comme la plupart des services collaboratifs, il y a une transaction qui se passe entre le passager et le conducteur grâce au numérique et leur carte de crédit ou de virement de compte à compte. Et nous, on prend une commission au passage.
Aujourd'hui, Citygo est en marche, fonctionne. Si je sors du lieu où on est, à savoir le salon Equipoto à Villepinte, je peux me saisir de mon smartphone et à partir de l'appli Citygo, rechercher des chauffeurs, des automobilistes environnants.
Alors tout à fait, ça a été lancé en début d'année. Alors je me permets de préciser qu'il s'agit de conducteurs et non pas de chauffeurs, ce qui est très important. Donc il faut trouver un conducteur qui va dans votre direction. Aujourd'hui vous avez une chance sur 4, voire une chance sur 3 de trouver un conducteur. Donc c'est pas du 100% comme c'est le cas quand on prend un taxi ou un VTC. Et avec la croissance de la communauté, comme je disais, on attend 100 000 personnes en début de 2016, là vous aurez... On estime 80% de chances de trouver un conducteur qui peut vous emmener à des heures plus ou moins normales, entre 7h du matin et minuit, 1h du soir.
Quelles sont les prochaines étapes pour Citygo?
Alors, on va continuer à rajouter des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités que nous demande notre base d'utilisateurs. Donc, on les remercie, mais en même temps, c'est un service pour eux, pour mettre fin aux galères des transports en commun, la fameuse expression parisienne en tout cas. À partir de mi-2016, nous allons nous déployer dans 10 autres grandes villes, grandes métropoles en France pour justement agrandir la communauté et étendre ce service à d'autres villes où les transports en commun posent un problème, ce qui est à peu près dans tous les cas dans les zones périurbaines.
Patrick Clough, merci. Je rappelle, vous êtes fondateur de la start-up Citygo. Merci.
Et donc, il a appris Citygo. Place à notre enquête de l'atelier. On va changer d'univers pour évoquer la COP21 et évoquer le numérique aussi. Est-ce qu'il peut agir en faveur du climat, le numérique?
C'est toute la question. Alors, le 30 novembre marque le top départ de la COP21. Alors, sauf si vous étiez congelé, je pense que tout le monde sait que c'est une forme d'état généraux autour de la question numérique, dont l'objectif est non pas de réduire d'ici la fin du siècle le réchauffement climatique, mais de le contenir à 2 degrés. Alors chacun de nos invités autour de la table et par téléphone est à sa manière un acteur de l'efficacité énergétique. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en plateau Justina Swat. Bonjour.
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 Vous êtes cofondatrice de POC 21. Nous avons également Paul Benoît. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Carnot Computing. Et nous avons en duplex de Berlin Arnaud Legrand. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud, vous êtes président d'Energiancy. Alors faisons un peu un tour de table sur ce que vous faites chacun en faveur du climat. Justina, on commence?
On commence. Donc POC 21, c'était un projet. Parce que on parle pas assez, car c'était un événement qui durait 5 semaines entre août et septembre.
Ouais.
On a accueilli des makers, des innovateurs en résidence dans un magnifique château dans les Yvelines où on parlait de transformation énergétique et de solutions pour le climat, mais en open source.
D'accord. Donc quelque part, l'idée c'est de réunir une communauté quelque part de faiseurs,
oui,
et de développer des solutions, ce qu'on appelle des proof of concept, qui seraient des solutions en faveur du climat. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets de ce qui a jailli de ce POC 21?
Oui, en fait, nous, on a déjà fait un appel à projets qui sont existants et qui sont déjà un prototype. Donc, il y avait 12 projets entre 200 qui sont postulés, qui travaillaient sur les sujets différents. Il y avait un éolien à $30, donc ça fait à peu près 50 euros. Il y avait un tracteur, un bici-tracteur, donc c'était un tracteur réinventé un tout petit peu à pédale.
Un tracteur à pédale.
Oui.
Ah oui, mais pas pour les enfants.
Un petit peut-être. Un peu.
D'accord.
Il y avait un concentrateur solaire. Il y avait un système de monitoring d'énergie qui correspond à peu près à Google Nest, assez connu. Il y avait un système de agriculture urbaine qui s'appelle Hacker. Voilà. Ouais. Et d'autres projets, il y en avait 12 au total, tous jeunes, très motivés. Nous, on a aidé ce projet à passer à la prochaine étape, donc on n'était pas parti de début.
Alors, Paul Benoît, vous prenez un tout autre angle. Quelque part, vous partez du principe, ok, on a les serveurs d'ordinateurs qui sont gourmands en énergie, et en plus, comme ils surchauffent, on doit les climatiser. Donc vous dites, pourquoi ne pas récupérer la chaleur émise par ces serveurs pour fournir de l'énergie ? J'ai tout bon ?
Oui, tout à fait. En fait, le principe, c'est de pouvoir récupérer directement la chaleur pour un besoin qui est un besoin primaire, qui est le besoin de chauffage. Donc, chez Carnot, on a développé et commercialisé ce qu'on appelle le premier radiateur, enfin, le CURAD, le premier radiateur ordinateur, donc qui chauffe de manière gratuite et écologique grâce à de la puissance informatique qui est embarquée dans les radiateurs. Donc, l'idée de tout ça, ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est très, très sérieux parce que derrière le numérique, aujourd'hui, il y a une face un peu caché du numérique qui est dans les fameux data centers qui se multiplient. Et il y a des études très très synthétiques, il y en a une très bien qui a été faite par Greenpeace qui s'appelle Clicking Green, qui montre la tendance du numérique. Aujourd'hui, si on prend le numérique dans sa globalité, c'est-à-dire en intégrant les ordinateurs, les téléphones, tout ce qu'on consomme, ça consomme pas loin de 10% de l'électricité mondiale. Et si on prend juste les data centers, en gros, à horizon 5 ans, la consommation électrique va doubler. Aujourd'hui, ça consomme à peu près entre 2 et 3% de l'électricité mondiale. Et d'ici 5 ans, ça va doubler. Donc ça pose un véritable sujet. Et quand on voit le déferlement des objets connectés, tout ce qui est en train d'arriver, on voit clairement que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir continuer la croissance numérique, parce qu'elle va pas s'arrêter. Va pas s'arrêter comme ça, tout en étant un peu malin. Nous, notre vision chez Carnot, c'est de travailler pour justement pouvoir installer cette source de chaleur à l'endroit où c'est le plus utile, c'est-à-dire dans les bâtiments, qui en plus ont vocation à devenir de plus en plus des bâtiments numériques. Quoi qu'il arrive, ils vont être truffés de
bâtiments intelligents.
Voilà, exactement. Donc ça, on voit clairement, il y a eu des études assez détaillées sur le bâtiment intelligent. On a du mal à imaginer que toutes ces données partent dans des data centers, que ça soit mouliné à l'autre bout de la planète, et puis qu'après ça revienne chez vous. C'est un modèle qui paraît pas tenable.
Alors, du bâtiment, on peut passer aux usines. Arnaud Legrand, chez Énergie Ainsi, vous misez sur une meilleure gestion de l'énergie en usine, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Énergie Ainsi, c'est une start-up qui est à l'intersection en fait, des transitions énergétiques et numériques. On développe des algorithmes de big data et d'intelligence artificielle qui en fait analyse en temps réel les données issues des compteurs d'énergie intelligents, donc des smart meters, et de l'internet des objets. Et donc c'est ça essentiellement dans l'industrie. On a une cinquantaine de clients en Europe. Et notre technologie, elle permet aux entreprises industrielles de réaliser jusqu'à 20% d'économie d'énergie en tirant le meilleur de leur outil de production grâce à l'agilité justement qu'on va leur donner, puisqu'on donne de l'intelligence à ces compteurs qui sont la première brique en fait vers la transition numérique de l'énergie.
Arnaud, vous avez publié une tribune dans Libération. Vous déclarez qu'on n'est pas obligé d'attendre un consensus politique pour faire agir le numérique en faveur du climat. Je me posais la question par rapport au scandale Volkswagen. On a quand même un logiciel, un algorithme qui a prouvé que le numérique... Est-ce que le numérique ne souffre pas d'une sale image quant à sa potentielle éco-responsabilité?
Alors, c'est vrai que le scandale Volkswagen, je pense, c'est un bon exemple justement de la vision encore tenace du monde politique et économique qui oppose en fait compétitivité emploi derrière à la préservation de la planète. Nous, on dit le logiciel, ok, ça peut être dangereux, c'est ce que dit Elon Musk, le patron de Tesla, et puis d'autres entrepreneurs américains. Nous, on dit le logiciel, rendons-le bienveillant, en fait. Faisons en sorte que les algorithmes, ils servent la COP21, ils aident à faire des économies d'énergie, et on peut très bien, justement, se lancer dans une innovation frugale, comme le décrit Navi Raju, en proposant, en fait, de faire mieux avec l'existant, et c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on ne propose pas à nos clients d'investir massivement dans des systèmes beaucoup plus chers et onéreux et nouveaux. On leur dit, voilà, vous avez un outil industriel, tirez-en le meilleur grâce à de l'intelligence artificielle.
Paul Benoît, vous partagez cette envie, ce mouvement d'innovation frugale?
Ah bah nous, on est
vous êtes totalement là-dedans.
On est catalogué là-dedans dans le sens où c'est un peu l'approche de bon sens, on va dire, qui est proposée par l'innovation frugale. Pour revenir sur le logiciel et effectivement, aujourd'hui, c'est très opaque pour la plupart des gens. Enfin, ne serait-ce que combien consomme le numérique, c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. Je pense qu'il y a une opportunité gigantesque autour du numérique parce que c'est en pleine croissance. Donc, quand c'est en croissance, on peut justement en profiter pour trouver des solutions intelligentes. Et pour aller plus loin sur le logiciel, enfin, on a une personne qui s'occupe de l'open source. C'est la confiance. je vous laisserai dérouler. Mais voilà, aujourd'hui, les gens ne savent plus comment fonctionne leur voiture. Les gens ne savent plus comment fonctionne leur téléphone, ne savent plus ce qui se passe derrière Twitter, etc. Et quand on leur dit tiens, ça magouille un peu derrière, tout le monde est surpris, mais parce que personne ne sait comment ça marche.
Par rapport à toutes ces solutions de gestion d'énergie, est-ce que vous pensez que le smartphone est la solution, va être le principal capteur?
Moi, je pense pas je pense pas que ça va être le principal capteur parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de capteurs qui sont en train de se développer, de s'embarquer un peu partout.
Justina?
Moi, en fait, tout ça me fait un tout petit peu peur. Moi, je suis un tout petit peu contre pas mal de ces histoires. Déjà, je pense qu'il faut se poser la question. On dit technologie, hein, numérique. Technologie, c'est la réponse, mais c'est quoi la question? Donc je pense que oui, pourquoi pas, téléphone, ça sera le capteur, on va l'utiliser parce qu'on les a dans nos poches, donc forcément on peut faire plein de choses avec. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut donner et partager cette information? Je pense que là on est dans des sujets qui sont assez importants. Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose, que chacun se pose, parce que ça peut aller très loin très vite.
Est-ce que parmi les projets que vous avez développés pendant cette session de POC21, est-ce qu'il y en a qui vont être amenés à rencontrer un public parmi tous ces projets développés par les makers?
Oui, bien sûr. En fait, après les 5 semaines, on a organisé une exposition qui était ouverte pendant 2 jours. Donc, on a accueilli 2000 personnes où on a vraiment vu Madame, Monsieur Michou avec leurs enfants et petits-enfants qui étaient très ouvertes et qui ont accueilli cette idée très bien. Et donc, je pense que les gens, ils sont prêts à s'investir. Et nous, on travaille beaucoup plus sur la question de la société, d'intégration de numérique, mais assez douce. Et même si le château où on était sera chauffé avec les serveurs bientôt, mais la question de changement est beaucoup plus profonde que juste le logiciel, mais ça va ensemble. Donc oui, je pense que les gens, ils sont prêts, les projets, ils sont en open source, ils vont être publiés bientôt, et on est très, très présents, et on va vraiment rencontrer le public, c'est le but même.
Une question par rapport aux batteries. Est-ce qu'on n'est pas face à un gros paradoxe? À la fois, on est ultra dépendant des batteries, mais en même temps, ces batteries, aujourd'hui, on n'est pas capable de les recycler. Et surtout, elles sont très gourmandes en énergie. Lucina?
Oui, tout le système, n'importe quel type... alternatif nécessite le stockage, d'énergie, donc nécessite une batterie. Mm-hmm. En fait, on peut avoir des éoliennes, ce qu'on veut, mais si on n'a pas de batterie, si on n'a pas...
Il faut stocker cette énergie,
Donc n'importe quelle solution qu'on va appliquer, bon, pas n'importe quelle, mais la plupart de ces solutions nécessitent la batterie. Les batteries aujourd'hui, ils sont tous... mauvaises, on n'a pas une bonne solution pour ça aujourd'hui. Donc oui, on fait une boucle. Mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent. Je pense que le sujet qui est très abordé, recherché à ce moment.
Eh bien, merci à tous les deux.
Merci à tous les trois. Je rappelle, nous avions donc en studio Justine Assouat. Tout à fait. Arnaud Legrand d'Énergie Ancy, Paul Benoît de Carnot Computing, Justine Assouat de POC 21. Merci à tous trois.
Et on revient dans un instant, on va poursuivre cet atelier numérique avec notre web stratégie. On va parler de cuisine connectée dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Avant de retrouver notre passion selon Sanet et parler de déconnexion. Il paraît que ça ferait du bien qu'on se déconnecte. Bah écoutez, on va parler dans quelques instants. Avant tout ça, c'est notre web stratégie maintenant. Et on va parler de cuisine connectée avec vous, Lila, et votre invité.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va rester dans la cuisine. On va s'intéresser à la stratégie innovation du groupe SEB. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Karim Ouni. Bonjour.
Bonjour.
Karim Mouni, vous êtes chef de groupe innovation du groupe SEB. Vous avez présenté la semaine dernière le Connect Day. Alors, est-ce qu'on pourrait dire la cuisine de demain, la révolution de la cuisine de demain est en marche?
Je pense que oui, le digital, on l'a pris comme une épice dans déjà les bons ingrédients qu'on avait, à savoir des produits qui amenaient un plus conso. Sur Cookeo, c'est une capacité d'exécution qui est simplifiée, qui est rapide pour manger bon quand on n'a pas forcément le temps le soir en rentrant du travail. Pour ActiFry, c'est de manger de la friture tout en étant dans ce que l'on accepte d'un point de vue santé. Et le digital, peut-être plus qu'un virage, c'est surtout un décollage, c'est-à-dire qu'on garde le même objectif de répondre aux besoins utilisateurs et de le satisfaire dans son bien manger, mieux vivre. Et le numérique nous permet d'être encore plus près de nos utilisateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de manière très prosaïque, l'application accompagnant Cookeo s'appelle Mon Cookeo, et l'application fonctionnant avec ActiFry Smart s'appelle Mon ActiFry. On essaye et on arrive maintenant à s'adresser directement avec chaque utilisateur.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain chaque instrument soit connecté?
On pense que ce mouvement de connecter beaucoup d'objets, cet Internet des objets, est une tendance forte. Alors, il y a énormément de promesses par rapport à une quantité de produits qui se compte en milliards d'ici 5 à 10 ans. C'est toujours des ambitions et des anticipations qui sont à prendre avec un petit peu de recul. Toutefois, la réalité est quand même là, et dans la cuisine, on est absolument convaincu que, vu tous les objets qui seront dans la cuisine, dont les nôtres font partie, la moitié seront connectés, auront une existence numérique. Plus que rentrée, puisqu'on participe à cette modification des usages, hier avec Cookeo Connect, aujourd'hui avec ActiFry Smart, et demain avec d'autres produits pour lesquels on aura identifié avec nos utilisateurs, parce que c'est nos manières de concevoir les produits, qu'il y a un réel bénéfice conso. Donc oui, la numérisation est en marche, et plus que la vivre, on la construit avec nos utilisateurs.
Enfin, la sortie de ces produits, à la fois Cookeo et ActiFry, ont amené le développement de certains services, par exemple le programme de coaching. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres services émerger?
Il est vrai qu'avec ActiFry, avant la sortie qui donc se passe maintenant, on avait mené une expérimentation sur le coaching nutritionnel, puisque la promesse première d'ActiFry, c'était d'être gourmand tout en étant de bonne santé, accompagner en tout cas le mieux vivre et de ne pas subir la friture. On a été agréablement surpris de voir, avec cette étude platine menée donc l'année dernière, qu'il y avait plus que des résultats, une modification du comportement de l'utilisateur qui, étant mis au centre de l'usage et de l'outil, allait au-delà de ce qu'il pouvait faire, au-delà de ce qu'il voulait faire. Et c'est ce qu'amène
typiquement le numérique, en étant plus proche de l'utilisateur, on l'écoute mieux et on répond mieux à ses demandes. On peut penser que la première promesse à laquelle il va falloir répondre correctement, c'est de répondre à tout à chacun. Par exemple, les recettes de cuisine qui seront appréciées et attendues en France ne seront pas celles d'Allemagne, ne seront pas celles des États-Unis, ne seront pas celles du Japon et tous les pays où on est potentiellement distribué. Donc être au plus près de nos utilisateurs pour que dans leurs interactions, ils aient du contenu adapté, c'est ça l'élément le plus important dans ce qui nous attend. Mais effectivement, le fait de pouvoir s'ouvrir à l'utilisateur, naturellement et spontanément, il se connecte à d'autres au travers de ses communautés sur les réseaux sociaux bien connus. On a là, encore une fois, un terrain de jeu formidable pour amener d'autres services. Pour l'instant, c'est du partage, ça peut être du conseil et ça peut être encore plein d'autres choses.
Vous avez engagé un programme Open Food System, qui est un consortium à la fois composé d'acteurs du groupe SEB et également chercheurs. C'était en 2013. Quelle était et quelle est aujourd'hui la vocation de ce programme ?
Le projet Open Food System, qui a démarré mi-2013, est effectivement un consortium de 25 acteurs français, grandes entreprises, petites moyennes entreprises, start-up et acteurs académiques, dont le groupe SEB est chef de file. Donc étalé sur 3 ans, il se terminera donc l'année prochaine, mi-2016. Et sa vocation, c'était de pouvoir enclencher, démarrer cette conviction que dans la cuisine, l'outil qui en plus pour nous français qui sommes très très proches de notre gastronomie, la recette c'est un patrimoine et aussi vrai qu'on sait et on arrive à valoriser ici la littérature ou notre histoire, la recette peut être travaillée, on peut lui apporter toute l'intelligence que souvent nous avons avec l'expérience à force de cuisiner chez nous avec certains cordons bleus et certains chefs. Et donc le travail d'Open Food System, c'est de donner des outils et générer de la connaissance sur une recette qui va pouvoir être travaillée par des algorithmes. Donc c'est lui amener de la sémantique, de pouvoir les mettre en correspondance, de pouvoir répondre à quelque chose auquel on est tous confrontés. Dans ma recette, je dois mettre des oignons. Je n'en ai pas. Qu'est-ce qui me donnera le même goût ou en tout cas un résultat d'aussi grande qualité mais avec un ingrédient différent? Et donc Open Food System, ça a eu vocation et c'est en train de le réaliser, de construire toute une base de connaissances autour de ce thème-là, la valorisation de la recette. Mais comme tout programme de recherche, il amène des réponses, je les ai évoquées, mais il pose aussi de nouvelles questions, notamment quels sont les moyens techniques pour avoir encore plus de bons résultats. On sait bien que le digital, les capacités de calcul sur serveur, les capacités de calcul dans nos téléphones ou même à nos poignets avec nos nouvelles montres connectées vont très très vite. Donc il faut plus voir cette action comme le démarrage en fait d'un fil rouge qui est que dans la cuisine, on souhaite amener le digital au travers de nos produits, mais aussi en participant à cet effort commun qui est de faire de la recette un autre patrimoine que l'on sait correctement valoriser.
Est-ce que certains résultats du programme de recherche Open Food System vous a aidé à concevoir certains services? Par exemple, je pense au Cookeo Connect, à l'ActiFry, qui sont assez dépendants quand même de recettes. Quelles sont les synergies, les connexions entre à la fois ces produits et les résultats de l'Open Food System?
Les liens sont à la fois et la cross-fertilisation, puisque finalement c'est ça le mot-clé, ils sont à la fois directs et indirects. Les personnes impliquées dans Open Food System, en tout cas au sein du groupe SEB, sont souvent ceux aussi impliqués par rapport à la création de l'offre produit. Et donc, au fil des travaux, les uns les autres ont été éduqués sur ce qui se fait au niveau de l'état de l'art, car si chacun d'entre nous a une certaine vision de l'état du marché ou l'état même de la connaissance scientifique, le simple fait de se frotter avec des académiques, avec des experts, avec des chefs qui ont une particularité, avec des PME, des TPE, le fait de discuter et de s'ouvrir à l'autre a forcément modifié notre manière de voir.
Karim Mouni, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes chef de groupe innovation du groupe SEB. Merci.
Lila Megraoua, merci. Allez, on revient dans un instant, suite de l'atelier avec notre passion selon Sanette. À tout de suite.